Chapitre 5. Sophia se déplace rapidement le long du mur, dépasse l'escalier et atteint l'étroite porte d'un cagibi. Elle appuie sur la poignée et tire. La porte est fermée à clé. Pile monte les marches. Elle voit son reflet dans le plafonnier en cristal. Il sera bientôt en haut. Retournant vers l'escalier, elle s'affaisse près de la rambarde à l'abri des chemises sous plastique. Il la verra s'il tourne la tête dans sa direction. Mais s'il ne fait que passer, elle aura quelques secondes d'avance. Sa main la fait souffrir le martyre. Sa gorge et son larynx sont enflés. Elle a besoin de tousser, de se racler la gorge, de boire de l'eau. L'escalier grince sous les pas lourds et fatigués. Elle le voit entre les barreaux et recule doucement. Ville arrive sur le palier, pose sa main sur la rambarde et s'avance dans le couloir sans remarquer les gouttes de sang qu'elle a laissées par terre. Elle se relève et observe son dos et sa nuque bronzée au moment où il entre dans la chambre. Sans un bruit, elle contourne la rambarde et dévale l'escalier. Elle comprend qu'il a fait demi-tour et s'est déjà lancé à ses trousses. Les pas pesants s'accélèrent. Elle protège sa main blessée avec l'autre main, entoure ses doigts ensanglantés et endoloris. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle doit quitter la maison. Elle fonce dans le grand vestibule, entend les grincements sonores de l'escalier. « Je n'ai pas le temps pour ce genre de bêtises !» crie-t-il. Sophia court en silence sur un long tapis, trébuche sur une paire de chaussures, sans toutefois perdre l'équilibre. L'écran de l'alarme anti-intrusion à côté de la porte est allumé. Ses doigts sont tellement gluants de sang que le bouton du verrou lui échappe. Elle s'essuie sur sa robe et essaie encore, mais le bouton ne veut pas tourner. Elle baisse la poignée, pousse la porte avec l'épaule, mais celle-ci est de toute évidence verrouillée. Paniquée, elle cherche les clés des yeux tout en essayant encore d'actionner le verrou. En vain. Elle abandonne, se retourne et se précipite vers les doubles portes du salon. Dans une autre pièce, un objet de métal heurte le parquet. Elle s'éloigne des grandes fenêtres. Le verre scintille noir et son propre reflet apparaît sous forme de silhouette contre le mur clair du fond. Il arrive par l'autre côté. Elle recule et se dissimule derrière l'un des battants de porte. « Tout est fermé à clé !» dit-il d'une voix forte en s'approchant. Elle retient son souffle. Son cœur s'emballe. La porte émet un faible grincement quand il s'arrête dans l'embrasure. Elle peut le voir par la fente près des gonds, sa bouche entrouverte et ses joues luisantes de sueur. Les jambes de Sophia se remettent à trembler. Il fait quelques pas de plus, s'immobilise et écoute. Elle s'efforce d'être silencieuse, mais sa respiration affolée est bien trop forte. « J'en ai assez de ce jeu, » dit-il en passant devant sa cachette. Elle l'entend la chercher. Il ouvre des portes, il les referme. Il affirme qu'il veut juste lui parler. Un meuble racle le sol, puis un silence complet s'installe. Elle tend l'oreille, perçoit son propre souffle, le tic-tac désolé d'une horloge murale, les petits grincements du parquet. Mais rien de plus. Seulement un silence ténébreux. Désespérée. Elle attend encore un peu en guettant des pas qui essaieraient de se faire discret. Elle sait qu'il peut s'agir d'un piège, mais elle quitte quand même sa cachette car c'est peut-être sa seule chance. Elle s'avance de nouveau dans le salon. Tout est immobile, comme plongé dans un sommeil de 100 ans. Les meubles luxueux et leurs jumeaux sombres sur les vitres, son propre corps sous la lumière du lustre de cristal. Sophia s'approche d'une des chaises autour de la table lisse et essaie de la soulever, mais elle est beaucoup trop lourde. Elle la traîne par le dossier jusqu'aux grandes portes-fenêtres de la terrasse, gémissant de douleur lorsqu'elle se force à utiliser ainsi sa main blessée. Elle attrape le dossier des deux mains, fait quelques pas rapides, pivote sur elle-même et pousse un cri au moment où elle lance la lourde chaise contre la porte. La chaise heurte le verre, puis retombe dans la pièce. La vitre intérieure se brise et les éclats s'éparpillent sur le parquet. De gros pans de verre glissent et restent comme appuyés contre les parties intactes. L'alarme anti-intrusion se met à hurler. Sans se préoccuper des éclats de verre qui lui entaillent les pieds, Sophia saisit de nouveau la chaise. Elle s'apprête à l'envoyer encore une fois contre la porte-fenêtre lorsqu'elle voit Ville arriver du vestibule droit sur elle. Elle lâche la chaise et se rue dans la vaste cuisine, les yeux rivés sur le plancher blanc et les plans de travail en inox. L'homme la suit d'un pas tranquille. Le souvenir d'un jeu de poursuite de son enfance passe dans l'esprit de Sophia. L'impuissance qu'on ressent lorsque le poursuivant est tellement près qu'on n'a aucune chance de lui échapper. Elle s'appuie contre le plan de travail et fait tomber par terre une paire de lunettes et un étrange bracelet. Ne sachant plus quoi faire, elle jette un œil sur les portes de la terrasse, poursuit vers l'îlot central où sont posées deux casseroles étincelantes. Elle ouvre frénétiquement des tiroirs et voit un assortiment de couteaux. Elle en saisit un et se tourne vers l'homme qui arrive dans la cuisine. Il tient des deux mains un tisonnier noir de suie qui sert normalement pour le poêle en faïence. Elle pointe sur lui le couteau de chef à large lame et comprend aussitôt qu'elle n'a aucune chance. Il la tuera avec la lourde barre de fer. L'alarme continue de hurler, les éclats de verre lui brûlent la plante des pieds et elle ne sent plus sa main blessée. « Je vous en prie, arrêtez » allait-elle et elle recule droit dans l'îlot. « On va retourner dans la chambre, je vous promets, ça me va. » Elle lui montre le couteau qu'elle pose sur l'inox du plan de travail tout en s'efforçant de lui sourire. « Je vais quand même te frapper, » dit-il. « Vous n'avez pas besoin de le faire, » le supplie-t-elle et elle sent qu'elle perd le contrôle de son visage. « Tu vas souffrir, » continue-t-il en levant la tige métallique au-dessus de son épaule. « Je vous en prie, je me rends. »« Tu l'as bien cherché, » l'interrompt-il, puis il lâche brusquement le tisonnier. L'outil atterrit lourdement sur le plancher blanc, où il résonne un peu avant de finir par s'immobiliser. Villeux affiche un sourire surpris et regarde le cercle de sang qui s'élargit sur sa poitrine. « Putain, qu'est-ce qui... » chuchote-t-il. Il cherche un soutien de la main et vacille lorsqu'il ne trouve pas le plan de travail. Une nouvelle tache de sang apparaît sur sa chemise blanche, telle des stigmates, les plaies rouges fleurissent sur son corps. Il plaque une main sur sa poitrine, commence à tituber en direction du salon, s'arrête et contemple sa paume ensanglantée. Il a l'air effrayé d'un écolier et tente de parler avant de s'affaisser sur ses genoux. Le sang gicle sur le sol devant lui. La sonnerie de l'alarme est insoutenable. Réfléchi dans l'inox lisse de la grande casserole, toute la cuisine apparaît en panorama convexe. Sophia voit un homme se détacher contre les rideaux clairs qui encadrent les fenêtres. Sa tête a une forme bizarre. Il est debout, les jambes écartées, et il tient un pistolet des deux mains. Une cagoule noire avec des trous pour la bouche et les yeux recouvre son visage. Des mèches de cheveux ou des bandes de tissu raides pendouillent le long de ses joues. Villeux presse de nouveau sa main contre sa poitrine, mais le sang coule entre ses doigts sur son avant-bras. Chancelante, Sophia se retourne et regarde l'homme armé. Sans cesser de viser Villeux, il a lâché le pistolet d'une main et ramasse vivement deux douilles vides par terre. Il se précipite en avant et passe devant elle comme si elle n'existait pas, donne un coup de pied au tisonnier, attrape Villeux par les cheveux, incline sa tête en arrière et appuie le canon contre son œil droit. « C'est une exécution », songe Sophia. Comme dans un rêve, elle se dirige vers le salon, se cogne la hanche contre le plan de travail et laisse sa main courir le long du bord. Elle contourne les deux hommes, sent des frissons lui parcourir le dos et dérape dans le sang au moment où elle se met à courir. Ses pieds glissent, elle reste suspendue en l'air une fraction de seconde avant de tomber en arrière et de se cogner la tête. Une obscurité vaporeuse l'enveloppe un instant, puis elle ouvre de nouveau les yeux. Elle voit que l'assaillant n'a pas encore tiré, le canon est encore doucement appuyé contre l'œil fermé. Une vive douleur irradie son crâne. Son regard perd toute acuité, comme si son champ de vision se tordait. Ce qui, à l'instant, ressemblait à de grosses lanières de cuir le long des joues de l'homme, a soudain pris l'aspect de plumes mouillées ou de mèches de cheveux sales. Elle ferme les yeux. Le vertige est sur le point de l'emporter quand elle entend des voix percer le son strident de l'alarme. « Attendez, attendez !» supplie Villeux en respirant fort. « Vous pensez tout savoir, mais vous vous trompez. » « Je sais que Rajen a ouvert la porte et maintenant... »« Rajen, c'est qui ?» l'interrompt Villeux avec un halètement. « Et maintenant l'enfer va tous vous engloutir. » termine l'homme masqué. Le silence se fait et Sophia rouvre les yeux. Une étrange lenteur s'est installée dans la maison. L'homme à la cagoule vérifie l'heure et chuchote quelques mots à Villeux. Celui-ci ne répond pas, mais il semble comprendre. Le sang sort à gros bouillons de sa poitrine, coule le long de son entrejambe et forme une flaque sur le parquet. En tournant la tête, Sophia voit les lunettes tomber tout près d'elle, devant le socle rayé du meuble de cuisine, et encore plus près, l'objet qu'elle avait pris pour un bracelet. Elle s'aperçoit maintenant que c'est une alarme anti-agression. L'objet a la forme d'un petit boîtier avec deux boutons fixés sur un bracelet de montre. L'agresseur se tient parfaitement immobile et observe sa victime. Sophia déplace avec précaution sa main pour attraper l'alarme qu'elle dissimule contre son corps avant d'appuyer plusieurs fois sur les boutons. Il ne se passe rien. L'homme lâche les cheveux de Ville, mais tient le canon contre son œil droit, attend encore un instant, puis presse la détente. Un petit bruit retentit lorsque la culasse est libérée. La tête de Ville part en arrière, le sang jaillit de son crâne. Des morceaux d'os et des tissus grisâtres giclent jusque dans la salle à manger, pleuvent sur les chaises, sur la table et sur le saladier rempli de fruits. Sophia sent des gouttes chaudes éclabousser ses lèvres, puis voit la cartouche vide rebondir sur le sol. Un nuage gris a envahi la cuisine. Ville s'écroule, mort, comme un sac rempli de morceaux de bois et de tissus mouillés. L'homme masqué se penche en avant. Sa montre glisse vers le dos de sa main gantée lorsqu'il ramasse la douille. Il se place les jambes écartées au-dessus du cadavre, pose le canon contre l'autre œil, secoue la tête pour écarter les bandes de tissu mouillé de son visage et appuie encore une fois sur la détente.